Les informations Agia Tchipou.
Bonjour, les titres de ce journal. Les FRDC ont lancé depuis hier dans le sud Kivu une série d'offensives contre les combattants Mai Mai et les rebelles Hutu-Rwandais. Ceci après le massacre d'une trentaine de personnes. Dans ce journal, le point sur ces attaques des FRDC. La vie reprend petit à petit à Niamilima dans le nord Kivu, tandis que la situation reste toujours confuse. La localité de Nyakakoma au nord de Goma est toujours sous le contrôle des combattants Mai Mai FDLR. Et puis nous irons à Mbandaka, où des femmes victimes des viols pendant l'insurrection du 3 au 4 juillet portent plainte. Elles sont 7 au total sur les 27 victimes dénombrées. Mesdames et messieurs, bonjour. Les troupes de la 10e région militaire ont lancé plusieurs offensives au sud Kivu contre des groupes des combattants Hutu-Rwandais depuis une semaine. Ceux-ci battent en retraite mais se réinstallent dans d'autres localités où ils tentent de se réorganiser. Le point sur ces opérations avec Michel Chirimwami.
Ces opérations ont commencé mercredi 6 juillet à Mushinga, en territoire de Walungu. Les éléments de la 103e brigade ont ouvert un front sur Burigny, principal bastion des combattants Hutu-Rwandais dans la région. Ces affrontements se sont soldés par la prise de contrôle de Burigny par les FARDC. Depuis ce lundi, un autre front s'est ouvert à partir de Kaziba sur Luinja, localité voisine de Burigny. Des forces de la 10e région militaire ont délogé des combattants Hutu-Rwandais présents dans cette chefferie. La zone de Luinja est réputée en plus pour ses gisements d'or et notamment la mine de Twangiza. Un autre affrontement se poursuivait jusqu'hier entre FARDC et Hutu-Rwandais au-delà de Mushinga. Selon le commandant second de la 103e brigade, les combattants rwandais se seraient retirés de 4 localités du groupement de Mushinga. Ils tentent de se réorganiser pour une contre-offensive. Les combattants Hutu-Rwandais semblent donc reculer partout où ils sont attaqués et se retirent vers le sud en forêt de Mwenga. Mais ces opérations ne font que déplacer le problème. Les combattants chassés la semaine dernière de Burigny se sont établis dans le village de Katimbili, plus au sud. Selon nos informations, ils ont forcé les habitants à leur construire 500 maisons et ils construisent un nouveau centre d'entraînement. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Et puis, massacre de Tumulamba, toujours dans le sud Kivu. Ce massacre suscite encore des réactions. Après le gouvernement congolais et la MONUC, c'est au tour des États-Unis d'Amérique. Washington condamne, je cite, le massacre brutal et lâche des civils qui s'est produit le 9 juillet dernier. Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État américain, Tom Cassé, affirme que cette attaque montre à quel point il est nécessaire que les rebelles rwandais qui opèrent à l'est de la RDC rendent les armes et rentrent immédiatement chez eux. Une autre réaction, c'est celle du Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de New York. Celle-ci condamne fermement ce massacre et appelle les autorités congolaises à traduire en justice les auteurs et les responsables de ces crimes. Le Conseil de sécurité appelle également les forces démocratiques de libération du Rwanda à honorer les engagements qu'elles ont pris de déposer les armes et de régler sans délai la question de rapatriement de leurs combattants. Situation toujours confuse au nord Kivu après l'attaque Mai Mai et combattants Hutu-Rwandais sur 3 localités lundi matin. La localité de Nyakakoma à 180 km au nord de Goma serait toujours sous le contrôle des combattants Mai Mai et des combattants Hutu-Rwandais. En revanche, à Nyamilama, dorénavant sous contrôle de l'armée régulière, la vie reprend petit à petit comme le constate Gisèle Cage.
La vie reprend à Nyamilima. D'après des sources religieuses, les habitants de cette localité ont commencé à rentrer chez eux depuis hier matin. Ils avaient fui lundi matin après l'attaque conjointe FARDC Mai Mai sur les villages de Nyakakoma, Nyamilima et Ishasha. Ce matin, une messe a même été dite dans la petite chapelle de Nyamilima. Témoignage du père Paul que nous avons joint au téléphone.
Toute la population est à Nyamilima. Le travail a recommencé. Sans problème, nous avons dit la messe, l'église était pleine. Toute la matinée d'hier, il y avait une file de tous les gens, les enfants, avec les petits chèvres, avec les bidons, avec les matelas. Ils venaient de Bouganza, de Nyaruangue, de Nyamwisi. Il n'y a plus de problème. Les 95% de la population est sur place.
Si la vie a repris normalement à Nyamilima, ce n'est toujours pas le cas à Nyakakoma, un peu plus au nord. Cette localité serait toujours sous contrôle des combattants Mai Mai et FDLR. Hier, les FARDC auraient tenté la reprise de ce village, mais sans succès. On estime à plusieurs milliers de personnes qui auraient fui Nyakakoma vers les forêts. Gisèle Cage, Goma, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Butembo, toujours dans le nord Kivu, plus de 60 combattants Maïmaï de Vurondo, au nord-ouest de Butembo, viennent de quitter la brousse pour se joindre au FRDC. Ces Maïmaï sont cantonnés momentanément à Kimbulu, en territoire de Lubero, en attendant le brassage. Étienne Moindo.
Depuis une semaine, 67 combattants Maïmaï et membres de leur famille ont rejoint spontanément Kimbulu, un gros village de milliers d'habitants. Un camp fait de lutte y a été érigé pour ces nouveaux venus. Jusqu'à présent, la cohabitation avec la population locale se passe bien, témoigne un habitant. Les combattants ont exprimé la volonté d'intégrer les FRDC. Ils sont par conséquent astreints à la discipline militaire, déclare le commandant de la 18e brigade. Le colonel John Chibangu souligne que chaque ex-combattant reçoit sa ration quotidienne. Le colonel reconnaît cependant que les combattants manquent de vêtements, de couvertures et de soins médicaux. Et d'ajouter parmi ces ex-combattants figurent une bonne dizaine d'enfants et de blessés. Leur place n'est pas dans l'armée. Ces deux catégories de vulnérables seront incessamment confiées à la CONADER pour leur démobilisation. Étienne Mindo, Butembo, Radio Okapi.
Direction Katanga, le gouverneur Kisula Ngoy vient de suspendre son attaché de presse. L'arrêté ministériel légitimant cette suspension a été publié hier à Lubumbashi. Le journaliste Donatien Nyembo Kikumi avait tenu au cours d'une émission à la radio nationale des propos qui incitaient la population à la haine contre l'ONG de droits de l'homme Azado Katanga. Le gouverneur interdit par ailleurs son attaché de presse de prendre désormais la parole dans les médias. Le point avec Paul Kaboba.
Selon les termes contenus dans l'arrêté de suspension, le gouverneur Kisula Ngoy reproche à son attaché de presse, je cite, de s'être jeté dans la mêlée sans être mandaté. Le même arrêté affirme que Kisula Ngoy ne se reconnaît pas dans les propos tenus par M. Donatien Nyembo Kimuni. Pour rappel, intervenant le 7 juillet dernier sur les antennes de la radio nationale, M. Donatien Nyembo Kimuni avait traité l'Azado d'association tribale. Poursuivant son exposé, l'attaché de presse du gouverneur affirmait que l'Azado combattait les intérêts des Katangais. Selon lui, l'Azado veut faire fuir les investisseurs qui amènent des emplois au Katanga. L'Azado ainsi que d'autres associations des droits de l'homme avaient vivement protesté contre les propos de M. Donatien Nyembo Kimuni, qui exerce du reste des fonctions officielles au gouvernorat de province. Par une série de communiqués de presse, des ONG de droits de l'homme affirmeront que le gouverneur du Katanga, cautionné par son silence, les agissements de son attaché de presse ainsi que d'autres journalistes qui tiennent des propos similaires sur des médias publics. C'est donc dans ces circonstances que le gouverneur Kisula Ngoy a pris hier un arrêté qui suspend pour 15 jours son attaché de presse. Reste à savoir si cette mesure va mettre fin aux écarts de langage constatés ces derniers jours dans le chef de certains journalistes de la chaîne nationale. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
À Mbandaka, des femmes victimes de viol pendant l'insurrection du 3 et du 4 juillet portent plainte. Elles sont 7 au total sur les 27 victimes dénombrées. Déjà une plainte a été déposée hier mercredi à l'auditorat militaire garnison de Mbandaka. Une plainte introduite par l'équipe de soutien au développement intégral humanitaire et de la biodiversité SDHB, une ONG qui s'occupe de la prise en charge des victimes des violences sexuelles. Le coordonnateur, voulais-je dire adjoint, chargé de l'assistance juridique et judiciaire, Maître Lambert Lissika, explique l'assistance que l'ONG apporte à ses victimes.
Sur le 27 cas que nous avons recensés, il y a 7 cas de victimes de violences sexuelles qui ont accepté d'être assistées par nous, c'est-à-dire par l'ONG, et dans le cas de la commission juridique. Et dans ces 7 cas, il y a un cas pendant, c'est-à-dire déjà déposé au niveau de l'auditorat militaire de garnison. Et 6 autres cas sont en étude qui sera incessamment déposé également. Et c'est dans le cadre d'assistance pro deo, c'est-à-dire gratuitement, nous allons les assister en mettant à leur disposition des avocats pour leur défense.
Comment l'auditorat a-t-il réagi?
Bien, l'auditorat est prompt à réagir parce que bon, pour l'unique cas, il y a déjà un mandat de comparution d'amener, c'est-à-dire c'est l'immunité qui a été identifiée, sera appréhendée, amenée à l'auditorat pour être attendue.
Maître Lissika était au micro de Paul-Richard Malengela. Il ajoute que les autres victimes n'ont pas sollicité l'assistance juridique. Elles bénéficieront simplement de la prise en charge médico-sanitaire organisée par le collectif des ONG membres de l'initiative conjointe de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, aux jeunes filles et aux hommes. Restons toujours à Mbandaka pour signaler le lancement officiel mardi dernier de la deuxième phase de sensibilisation du programme national de désarmement, démobilisation sensibilisation et réinsertion à l'Équateur, campagne menée par 20 sensibilisateurs formés par la CONADER en prévision de l'ouverture d'un centre d'orientation au chef-lieu de l'Équateur. Reportage de Paul-Richard Malengela.
Malgré la fin de la guerre, le coordonnateur provincial de la CONADER a indiqué qu'il faut la constitution d'une armée nationale unique, restructurée et intégrée, ce qui est un gage sûr pour une paix durable dans la province après 5 années de guerre à l'Équateur. Mais cela doit se réaliser conformément au programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, le PNDDR. C'est dans cette optique que Mbandaka va bientôt ouvrir son centre d'orientation, un centre où passeront tous les éléments actuels des FRDC, issus des ex-FAC et de l'ex-ALC. Ils devront opérer un choix entre l'armée et la vie civile. Tout ce processus nécessite d'être bien connu par la population, d'où cette seconde phase de sensibilisation. Elle vise l'implication de toutes les couches sociales en identifiant les avantages pour les uns et les autres, ainsi que leurs responsabilités. Le coordonnateur provincial de la CONADER, Jean-Claude Collet, a alors invité les ONG à introduire des projets de partenariat avec son institution, notamment pour la gestion des fonds relatifs à la réinsertion socio-économique des ex-combattants et ex-enfants soldats. La campagne démarrée officiellement mardi en Mbandaka s'est poursuivie ce mercredi jusqu'à lundi prochain. Entre-temps, 40 autres sensibilisateurs mènent la même campagne à travers les 5 districts de l'Équateur. Mbandaka, Paul-Richard Malengela, Radio Okapi.
Processus électoral à présent, la commission électorale Maniema éprouve quelques difficultés dans l'implantation des centres d'enrôlement et d'inscription. Ces difficultés sont liées à l'augmentation du nombre de centres qui est passé de 210 à 450 et à l'inaccessibilité de quelques localités reculées de la province. Émile Dimoké Tamboué, président de la CEI Maniema, revient d'une tournée à l'intérieur de la province. Il s'exprime au micro de Gabriel Wamenia.
Bon, sur terrain, c'est un problème de déplacement pour repérer les centres d'inscription. Donc, ça pose un peu de problème. C'est du sacrifice. Pour la plupart, ce sont des écoles qui vont abriter les centres d'inscription. À l'intérieur de la province, les écoles sont ce qu'elles sont. Pourvu que les quelques conditions sécuritaires soient remplies pour que nous puissions accepter qu'un centre soit établi à tel ou tel autre endroit. Donc, c'est pénible, hein. Il y a des coins, non seulement côté de Kabambar et Wamaza, mais en fait, il y a d'autres côtés où, nous éprouvons beaucoup de difficultés pour y accéder. Par exemple, le foyer minier. J'ai été à Pugna, j'ai discuté avec les autorités pour que nous puissions avoir la possibilité d'aller dans le foyer minier où l'on nous dit on doit d'abord nous déposer à un hélico quelque part où nous devons effectuer 3 jours de marche dans la brousse pour atteindre l'Ibakuyasuka. Donc vous comprenez là que ce sont là les difficultés que nous éprouvons sur le terrain. Pour le problème de sécurité, nous avons posé le problème à l'autorité provinciale à la charge de pouvoir sécuriser tous les territoires là où la CEI va faire son travail.
Quittons Kindu pour la province orientale, la nationale numéro 4 bientôt réfectionnée. Le premier coup de pioche officiel des travaux de réhabilitation de cette route de Kisangani-Beni a été donné à Kisangani hier par le vice-président en charge de la commission de reconstruction et développement. La cérémonie a eu lieu en face du beach back de l'office des routes. José Deschartes Menga était présent.
C'est sous un soleil de plomb que le vice-président Abdoulaye Rodian Dombassi a donné le premier coup de pioche. Le premier travaux de réhabilitation de la nationale numéro 4 concerne les tronçons Kisangani-Niania, long de près de 400 km. Il s'agira de rouvrir la route à la circulation dans une vitesse moyenne de 45 km/h. D'autres travaux complémentaires sont prévus. Monsieur Richard Proto, représentant de l'entrepreneur.
La reprise des sections de route détériorées, y compris la pose d'une couche de roulement en latérite, travaux de sauvegarde de sections encore roulantes par la réparation des nids de poules et des épaufflures latérales, les travaux de construction et réparation des ouvrages d'assainissement et des fossés latéraux, travaux de réparation et d'entretien des ouvrages d'or, les ponts.
Des officiels congolais insistent pour que les travaux se terminent dans 18 mois tel que prévu. Par contre, le vice-président Yerodia n'a pas convaincu quant aux garanties nécessaires pour que cet argent n'atterrisse pas dans les poches de particuliers.
Eh bien, si je voulais que je donne des garanties, si j'étais curé, je leur dirais, ne faites pas ça, vous irez en enfer, n'est-ce pas? C'est complètement ridicule de donner des garanties. C'est une question de conscience des citoyens, n'est-ce pas? Si on est pour l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, alors on ne pratique pas des vertus d'anciens.
Les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 4 sont financés par la Banque mondiale à hauteur de 18,5 millions de dollars américains. Kisangani, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Terminons en éducation. Fin aujourd'hui de la session des examens d'État édition 2005. À Kinshasa, les élèves commencent déjà à sortir des salles d'examen. Ils se disent pour la plupart optimistes quant aux résultats de ces épreuves. Ces élèves ont même déchiré leurs uniformes pour signifier la fin des études secondaires. Secondaire, voulais-je dire. Retrouvons au collège Boboto à la Gombe de Namadimba.
Adieu, bleu blanc. Un tel, le garçon à part, une telle, la fille à part, et bien d'autres slogans. Voilà ce qu'on peut lire sur les chemises blanches des élèves qui sortent du centre d'examen du collège Boboto. Élèves qui, depuis quelques temps, quelques minutes maintenant, ont terminé leurs épreuves du jour. Pédagogie pour les uns, latin pour les autres, physique ou chimie pour d'autres encore. Le pronostic dans l'ensemble est positif. Presque tous ne jurent que par la réussite. Et pour manifester leur optimisme et surtout un certain soulagement, disent-ils, la centaine d'élèves déjà rencontrés maintenant n'hésitent pas à décorer les tenues scolaires. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que nous ressentons, mais nous les invitons à nous comprendre tout de même. Finissent tous par dire, dans 30 minutes, tout le monde aura terminé. Et ce sera la fête. En tout cas, aujourd'hui, beaucoup iront en boîte selon l'invitation d'une certaine classe dans la ville de Kinshasa. Depuis le collège Boboto à Kinshasa, de Namadimba, pour Radio Okapi.